annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Iosephum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Ratzinger.
Bonjour et bienvenue dans ce podcast Ils ont rencontré Benoît XVI. Je reçois aujourd'hui Rémy Brague. Bonjour monsieur.
Bonjour mademoiselle.
Vous êtes philosophe et historien de la philosophie, spécialisé en philosophie arabe et médiévale. Et donc vous partagez avec Benoît XVI l'amour du savoir, des études, de la recherche. J'imagine que c'est dans ce cadre-là que vous l'avez rencontré.
À vrai dire, seulement partiellement. Je l'ai rencontré en 1975 pour la première fois, alors que j'étais un petit professeur de philosophie dans un lycée. Alors évidemment, je m'intéressais déjà à la philosophie, sans quoi j'aurais choisi un autre métier. Mais, à vrai dire, je ne l'ai connu comme grand intellectuel qu'à partir de la lecture de ses livres. En 1975, c'était une rencontre qui se passait à Munich, où l'édition francophone de la revue Communio retrouvait pour la première fois les éditions antérieures, à savoir l'édition allemande et l'édition italienne. Il y avait déjà une édition croate sous la forme d'une partie d'une revue qui existait déjà parce que le gouvernement de Tito, à l'époque, n'autorisait pas la multiplication des revues catholiques. Et puis, alors je sais qu'il y avait déjà un espagnol, mais je ne suis pas sûr que l'édition espagnole avait déjà une existence matérielle. Alors ça se passait très précisément à l'Académie catholique de Bavière, donc à Munich, un endroit tout à fait agréable, avec un joli jardin au fond duquel il y a un petit château qui s'appelle le château Suresnes du nom de la ville à côté de Paris. Je ne sais pas trop pourquoi il s'appelait comme ça, mais l'endroit était d'autant plus impressionnant. Le château lui-même était tout petit, c'était ce qu'on appelait une folie au XVIIIe siècle, une petite maison de campagne pour gens fortunés. Mais c'était d'autant plus intéressant que s'y trouvait la bibliothèque de Romano Guardini, qui avait sans doute légué sa bibliothèque à l'Académie catholique. Donc c'était assez impressionnant et émouvant. Alors pour revenir à Ratzinger, qui n'était évidemment pas encore cardinal, mais simplement professeur d'université, je crois qu'il était déjà à Ratisbonne, mais je n'en suis pas sûr. En tout cas, ils avaient organisé un débat, une sorte de disputatio à la médiévale, où Ratzinger devait présenter des thèses, un certain nombre de thèses sur l'évolution de l'Église depuis le Concile. Et puis, chaque rédaction avait délégué un de ses membres pour lui répondre. Alors j'avais été désigné comme représentant de l'édition française tout simplement parce que je parlais allemand. Mais je n'avais pas de qualité particulière pour ce faire. Ratzinger a défendu l'idée suivant laquelle, c'est tout ce dont je me souviens, ma mémoire n'est pas infaillible et plutôt même une vraie passoire, mais il avait défendu l'idée suivant laquelle la période qui s'était écoulée depuis le Concile avait été très négative pour l'Église. Et qu'il fallait mettre les choses au clair, ne pas laisser les différentes églises déjà partir chacune de son côté, et puis chacun faire ce qu'il jugeait bon à ses yeux, sans se demander si c'était vraiment la foi de l'Église. Alors je me souviens que les réponses des intervenants étaient plus optimistes, si vous voulez, y compris la mienne. Il s'est d'ailleurs avéré que c'était Ratzinger qui avait raison. Hein. Bon, nous étions vraiment trop naïfs à l'époque. Donc c'était la première rencontre. Mais je le connaissais déjà par ses écrits, puisque un ami suisse, d'ailleurs, qui était de langue maternelle alémanique, mais qui parlait un français remarquable, c'était d'ailleurs son métier, il était romaniste, comme on dit, enfin, spécialiste des cultures romanes, cet ami m'avait recommandé, il m'avait peut-être même offert, mais je ne me souviens plus très clairement, l'introduction au christianisme. Enfin, ça c'est le titre allemand, le titre français, je ne sais plus ce que c'était, « Foi chrétienne hier et aujourd'hui », enfin un titre un petit peu plus accrocheur, un petit peu plus journalistique, si j'ose dire. Donc j'avais lu cela dans la traduction française, et j'avais trouvé que c'était vraiment très bon. D'ailleurs, le livre a été un succès, hein. Il a été très vendu, traduit dans pas mal de langues, et bon, c'est ça qui a établi la réputation intellectuelle de Ratzinger. Alors par la suite, donc à partir de 1975, ça fait quand même pas mal de temps, j'ai dû le voir en tout une demi-douzaine de fois, hein, dans des circonstances différentes. Je me souviens d'une rencontre à Madrid, où nous avions été invités tous les deux, et puis un ou deux autres, pour parler de je ne sais plus trop quoi. Enfin, il s'est exprimé en italien à ce moment-là. Et bon, ça a été les textes de la conférence, qui avait été d'ailleurs organisée sous l'égide de la conférence épiscopale espagnole, ont été publiés en un petit volume que j'ai eu et que j'ai égaré depuis. De même d'ailleurs que le premier livre, donc ce livre sur la foi chrétienne, qui est un exposé du credo, que j'ai dû prêter, et puis comme souvent, les gens ne me rendent pas les livres que je leur prête. Enfin bon,
c'est un appel.
C'est comme ça. Donc nous nous reverrons au purgatoire, hein, celui qui m'a pris le livre et moi-même. Bon, enfin, dans le meilleur des cas, bien sûr. Enfin, si, parce que de toute façon, si nous sommes tous les deux en enfer, nous ne nous rencontrerons pas, puisque l'enfer est un lieu de solitude. Hein. Il n'y a pas de communion des saints, il y a une communion des saints, mais il n'y a pas une communion des damnés. Bon, en tout cas, je l'ai vu également lorsqu'il est venu faire à Paris une conférence sur la catéchèse. L'Église de France était un petit peu en dérive à cette époque. Il y a beaucoup de gens qui, d'ailleurs par erreur, croyaient que le nouveau catéchisme, c'était le fameux Pierre Vivante, alors que Pierre Vivante, c'était simplement un recueil de documents, et ça ne se présentait pas du tout comme un manuel de catéchisme. En tout cas, il y avait pas mal de dérives, et il est Ratzinger, qui était donc, je crois, déjà préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, était venu. Alors je suis allé le saluer après la conférence, un petit peu comme représentant de l'édition francophone. Là, nous avons parlé en français, langue qu'il maîtrisait admirablement. Enfin, il parlait vraiment très très bien, presque pas d'accent et un vocabulaire très riche. Bon. Alors j'oubliais qu'auparavant, j'étais allé en 77 son intronisation comme évêque de Munich et Freising. Et là, j'avais été extrêmement frappé par son sermon. Enfin, ça s'est passé dans la cathédrale de Munich, enfin la Marienkirche, et donc dédiée à la Vierge Marie, comme son nom l'indique, et il y avait vraiment de tout dans le public. Bon, il y avait des délégations, des étudiants avec ce fameux costume, franchement un petit peu ridicule maintenant. Bon, il y avait des représentants des corporations, alors certains en tenue, les bouchers avec un énorme tablier de cuir. Enfin, c'était assez coloré comme, comme, comme public, il y avait vraiment de tout. Hein. Bon. Donc des gens très simples comme des grands intellectuels. Et alors il a fait un sermon dans lequel il s'est contenté d'expliquer les rites qui en faisaient un évêque. Qu'est-ce que ça signifie? Alors pourquoi est-ce qu'on me met un livre sur la tête? Bon, ben parce que je ne suis pas là pour expliquer ma façon de voir, pour dire mes opinions, mais pour bah dire, pour prêcher l'Évangile et l'Évangile seul. Bon, alors j'ai admiré vraiment, là évidemment il parlait en allemand, j'ai admiré ses dons de clarté. Ça c'est assez extraordinaire. Ah oui, c'était un pédagogue, enfin excusez le gros mot, enfin non, c'était un maître. Un maître, un professeur vraiment extraordinaire. Il était capable de parler, d'expliquer les choses les plus ardues, les plus hautes, de manière très simple, très imagée. Bon, et donc tout le monde le comprenait. J'avais l'impression que tout le monde le comprenait.
Malgré la diversité du public.
Malgré l'extrême diversité du public, vraiment il parlait pour tout le monde. Alors ensuite, je ne sais plus. Si, je l'ai revu en 99, fin 99 à Paris. Nous avions, enfin nous, en fait c'est surtout Cyril Michon, hein, un ami qui est professeur de philosophie lui aussi à l'université de Nantes. Il ne l'était peut-être pas encore à l'époque, je ne sais plus trop ce qu'il faisait, mais nous avions eu l'idée d'organiser un colloque international pour nous poser la question. Bon, tout le monde parle de l'an 2000, mais on ne dit pas ce qui s'est passé en l'an 0. Hein? Et donc, ma contribution à l'organisation de ce congrès a été très restreinte. C'est vraiment Cyril Michon et quelques autres qui sont allés au charbon. Et moi, j'ai contribué, et là, j'en suis assez content, en indiquant le titre, hein, 2000 ans après quoi. Parce que, bon, tout le monde disait 2000 ans, mais personne ne parlait de la naissance du Christ. Enfin, même si nous savons qu'elle ne s'est pas passée en l'an 0 à cause d'une erreur de calcul, bon, mais sans doute en moins 6, moins 7, quelque chose comme ça. Toujours est-il que nous avons osé l'inviter, il était déjà préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, cardinal et tout. Et il a dit oui. Et il a dit oui, un petit peu à notre grande surprise, parce que nous savions très bien qu'il avait d'autres chats à fouetter, comme on dit. Il est venu et il a parlé, enfin donc le cardinal, hein, le grand inquisiteur, bon, a parlé dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, donc le lieu même de l'université laïque, gratuite et obligatoire. Donc c'était déjà assez amusant. Bon. Et puis ensuite, il nous a fait un exposé qui était un modèle de cours, évidemment dans un français impeccable, un exposé qui était un modèle de leçon magistrale, avec des citations référencées, avec des arguments solides, avec un plan clair. Bon. Enfin, vraiment, nous avons pris, si je puis dire, une leçon d'éloquence universitaire. Et c'était d'autant plus amusant que nous venions d'entendre je ne dirais pas qu'il l'avait prononcé, mais enfin, une conférence parfaitement échevelée, ce que l'on appelle dans le jargon universitaire pas très bien élevé, une grande déconnante. Bon. Eh bien, alors là, vraiment, c'était amusant de voir cet Allemand faire la leçon aux Français, sans le savoir. Enfin, et il n'avait aucunement l'impression ni l'intention de nous apprendre notre métier, de voir cet étranger apprendre à des Français, ce prêtre devant un public de laïcs et parfois même un peu de laïcards sur les bords, et vraiment se montrer, enfin montrer ce qu'aurait dû être la Sorbonne.
Oui.
Bon. Donc ça, c'était vraiment amusant. Puis alors, la toute dernière fois que je l'ai vu, donc, alors il y a cette, oh, je ne sais plus trop en quelle année, alors en 99, ça c'est certain. Ensuite, la toute dernière fois que je l'ai rencontré, c'était après sa renonciation. Après sa renonciation, donc ça devait être en septembre 2013. Hein, ça devait être ça. Il a renoncé en 2012.
En 2013.
En 2013
en
déjà.
En mars 2013.
Alors c'était.
Le pape François a été élu en mars 2013.
D'accord. Donc, le Benoît XVI a dû renoncer
fin
2012, tout début 2013. Bon. Et alors, j'avais été invité par les cercles groupés autour de sa pensée à Castel Gandolfo. Alors, il y avait deux groupes, deux cercles, c'est pour ça que j'ai employé le pluriel, ou le duel, s'il existait en français. Il y avait d'une part le cercle de ses anciens étudiants, et ceux qui avaient fait leur thèse avec lui, et puis de ses anciens assistants universitaires. Donc, c'était des gens, en gros, de mon âge. Hein. Et puis, il y avait aussi alors un cercle de gens plus jeunes, 30 ans, 40 ans, bon, qui alors, eux, n'avaient jamais travaillé avec Ratzinger, mais travaillaient sur Ratzinger, ouais. Écrivaient leur thèse sur tel ou tel élément de sa pensée. Donc, je me souviens que c'était assez dur pour moi cet après-midi, puisqu'il a fallu que je fasse deux exposés, tous les deux en langue allemande, comme ça, deux exposés en un après-midi. Bon, après, j'étais un petit peu crevé. Mais le lendemain, j'ai pu obtenir une audience au couvent où il s'était retiré à l'intérieur, dans les jardins du Vatican. Et alors là, j'oubliais, pardon, il y a eu quand même une rencontre en 2012 ou 2011, quand il était encore pape, et qu'il décernait le prix qui portait son nom. Donc là, je l'ai vu, et tout le monde a été frappé par son extrême fragilité physique. Hein. Le voyant entrer dans la salle Clémentine, où il devait remettre ses prix, j'ai vraiment eu l'impression qu'il était au bout du rouleau, hein, qu'il n'en avait plus pour longtemps. Ce qui est vraiment extraordinaire, ce n'est pas qu'il ait démissionné, enfin, le mot n'est pas juste, hein, enfin, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ait tenu le coup encore 10 ans. Parce que vraiment, on avait l'impression, en le voyant tremblotant sur sa canne, bon, on se disait, c'est un grand malade, voire un mourant. Donc, en 2013, donc, alors je suis allé le voir après ce truc-là à Castel Gandolfo, et là aussi j'ai vu qu'il était quand même très fragile, que sa soutane blanche n'était pas très propre, qu'on ne s'occupait peut-être pas de lui avec tout le soin qu'il aurait mérité. Je lui ai demandé s'il écrivait encore des livres, il m'a dit que non, il ne pouvait plus. Je lui ai demandé s'il jouait encore du piano, puisque j'ai vu le piano qui trônait dans la pièce où nous nous sommes rencontrés. Il m'a dit que non, qu'il ne pouvait plus non plus, que ses doigts ne lui permettaient plus de jouer du Mozart comme il du Mozart pardon comme il aime bien. Alors là, nous avons parlé en allemand et alors je me souviens plus très bien du contenu de la conversation. Je me souviens que je lui ai demandé un peu ce qu'il fallait que je fasse. C'est puisqu'il avait la gentillesse de connaître un petit peu ce que je faisais, et l'humilité. Donc, il m'a dit, continuez, continuez de faire ce que vous faites. Le dialogue avec l'islam est quelque chose d'important. Et je me souviens qu'il avait eu cette remarque, ils n'ont pas de théologie. Ce qui est parfaitement vrai, hein. Il existe une apologétique islamique qui a ses lettres de noblesse depuis le 9e siècle. Mais il n'y a pas de théologie au sens du programme d'Augustin, croire pour comprendre et comprendre pour croire, du programme qui a été repris par saint Anselme et qui a été illustré par les grands scolastiques et puis par tous les grands penseurs chrétiens depuis lors, jusqu'à Newman, jusqu'à Balthazar, jusqu'à Ratzinger lui-même et bien d'autres. Je ne voudrais pas donner une kyrielle de noms, mais il y en a, à savoir le programme d'une élucidation du mystère. Le mystère reste entier, hein, puisque Dieu est personnel, et toute personne étant mystérieuse, et Dieu étant super personnel, si je puis dire, il doit être super mystérieux. Élucidation donc du mystère par les moyens de la philosophie. En islam, la philosophie n'est entrée dans la théologie apologétique que relativement tard, en gros après Avicenne. Donc Avicenne est mort en 1037. La théologie apologétique, dite ce qu'on appelle le kalam, existe à partir du 9e siècle, donc il y a eu quand même un certain retard à l'allumage. Et la philosophie avicennienne est elle-même déjà pénétrée d'éléments d'apologétique, tantinet de mystique, etc. Enfin, ce n'est pas la philosophie telle que nous l'entendons en Occident. Donc, c'était notre dernière rencontre en 2013, donc septembre 2013, si ma mémoire est bonne. Donc, je viens faire un rapide petit calcul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'aurais vu 7 fois. C'est pas énorme, surtout que ça s'est étalé à partir de 1975, donc...
Oui, mais la dernière était une rencontre vraiment personnelle.
Oui, on est resté trois quarts d'heure ensemble à discuter de choses et d'autres. Je ne me souviens pas, malheureusement.
Mais vous avez pris de ces nouvelles.
Non, je n'ai pas de verbatim.
Et en parlant de philosophie, Benoît XVI avait comme grande préoccupation de concilier la foi et la raison.
Oui.
Et vous, en tant qu'universitaire catholique, est-ce que vous pourriez nous dire comment il y est parvenu ?
Il n'est pas le seul à y être parvenu.
Bien sûr.
En tout cas, il n'est pas le seul à l'avoir recherché. Tous les penseurs chrétiens, depuis l'origine, ont un rapport particulier et un rapport amoureux avec ce que le grec appelle logos. Alors je vous prie d'excuser le pédantisme de l'helléniste, mais c'est intéressant de dire logos pour ne pas justement réduire la raison à ce que trop souvent on entend par là, à savoir en gros la méthode expérimentale. La méthode expérimentale, donc, qui réussit merveilleusement dans les sciences de la nature, qui est moins à l'aise dans les sciences de l'homme, c'est pour dire le moins, et puis là où il s'agit de rapports entre personnes, se plante complètement. Tout ce qui est, disons, de nature historique, c'est-à-dire non répétable, par définition, échappe à l'expérimentation. Une expérimentation, c'est quelque chose qui doit, par principe, être répétable, puisque dans l'expérimentation, on fait abstraction des conditions de temps, des conditions chronologiques, je veux dire. Alors que dans les rapports, dans la connaissance historique, dans la connaissance personnelle, Bon, bah, il faut, passer une vitesse supérieure, comme dans une voiture, hein, et il faut avoir une raison. Alors, une raison élargie, j'aime pas tellement ce terme. Je dirais qu'il faut voir la raison dans toutes ses dimensions. Parce que élargir la raison, ça voudrait dire qu'il y a une raison étroite et que bon, on empiéterait sur d'autres domaines. Non, la raison, je dirais, dans toute sa largeur. Et alors, ce que j'ai trouvé de remarquable chez lui, c'est que il appuie cette recherche de rationalité de la foi, cette recherche non seulement d'une entente entre les deux poumons de l'être humain, pour reprendre une image que Jean-Paul II utilisait dans un autre contexte, à savoir la foi et la raison. Il s'agit non seulement de les amener à s'entendre, mais à se faire la courte échelle l'une l'autre, à s'aider l'une l'autre, hein, à se rendre utile l'une l'autre. Donc la foi doit ouvrir à la raison de nouveaux domaines, des domaines que bon, ben, la raison
Qui
par
était
elle-même
inexploré.
ne pouvait pas explorer exactement. Votre formule est très juste. Et d'autre part, la raison doit purifier la foi, eh bien, disons, de ses. Alors, non pas de ses excès, on ne peut pas trop croire. Hein, les trois vertus théologales ne sont pas susceptibles d'excès. On ne peut pas trop croire, on ne peut pas trop espérer, on ne peut pas trop aimer. Alors que les autres vertus, les vertus cardinales, sont susceptibles d'un excès. Puisque les vertus cardinales sont
Juste
comment dire, un
milieu.
juste milieu, oui, entre deux excès. Bon. Alors ce qu'il a donc de remarquable, excuse-moi, j'ai perdu un tout petit peu le fil de mes idées, c'est qu'il enracine ça, eh bien justement dans le fait que la raison, enfin le logos, était au commencement. Hein, il aimait commenter les premiers mots du quatrième évangile, là où Jean dit bah, au commencement était le Verbe. Bon, on traduit le Verbe communément. Bon, au commencement était le Logos. Bon. Et très astucieusement, il avait l'habitude d'opposer cela à l'idée d'un Big Bang. Alors, je rappelle que la notion de Big Bang, qui maintenant est devenue dans le langage courant, a été lancée par un astrophysicien anglais qui s'appelait Fred Hoyle, dans un sens, avec une intention ironique. Il disait, pour l'abbé Lemaître, il n'aimait pas les curés, hein, c'était un athée bon teint, Hoyle, pour l'abbé Lemaître, tout a commencé par un grand boom initial. Bon, il a dit ça à la radio. Bon, c'était une manière de se moquer de la théorie de l'atome primitif, qu'il n'admettait pas, au prix d'une théorie qu'il avait inventée ad hoc. Hein, ben voilà, il y a des atomes d'hydrogène qui apparaissent, point. Bon, on n'a pas à se demander pourquoi, comment, à partir de quoi. Non, non, ils apparaissent comme ça, boum. Boum, si j'ose dire. Et bon, l'expression est devenue, est entrée dans la langue courante, et on l'emploie comme métaphore avec des tas de sauces. Mais ce qu'il y a d'intéressant, justement, c'est que bang, c'est un bruit qui ne signifie rien. C'est irrationnel. Alors dire, ben non, au commencement, il n'y a pas eu un Big Bang, même si en astrophysique, ça devient de plus en plus plausible, bon, au point que c'est devenu le modèle presque officiel maintenant. Mais encore avant cela, il y avait la raison. Hein. Il y avait du logos, il y avait non seulement une raison, mais aussi un discours, enfin, quelqu'un qui veut nous parler, hein, un interlocuteur, quelqu'un qui a quelque chose à nous dire.
C'est toute la signification du verbe.
Mais absolument, absolument. C'est quand je veux expliquer ça, je dis, bon, Jésus-Christ, c'est le dernier mot de Dieu. Le dernier mot, c'est-à-dire, bon, ben voilà, en lui, il a tout dit. Alors évidemment, comme ce qui est donné est infini, on va passer un temps infini jusqu'au dernier jour à en expliciter les richesses. Alors ça, je trouvais ça vraiment remarquable chez lui, hein. Ce souci finalement de reprendre une tradition qui est en partie enracinée dans l'espace linguistique germanique et que l'on a trop tendance à oublier, à savoir les Lumières catholiques. Je dis bien les Lumières catholiques, parce que lorsque maintenant, dans notre bel hexagone, on entend le mot « lumière », hein, l'esprit des Lumières, c'est devenu une de nos vaches sacrées, eh bien, on entend par là des Lumières, soit anticatholiques, soit même carrément anti-chrétiennes, si ce n'est anti-déistes. Oui. Hein, bon. Effectivement, nos grands hommes, c'est Voltaire, c'est Diderot, pour ne pas parler de d'Holbach et d'esprit de moindre envergure. Or, il y a eu, au XVIIIe siècle, au fameux siècle des Lumières, des Lumières catholiques, alors en Bavière, d'où Ratzinger était fier de provenir, en Bohême, en Autriche, en Toscane, en Italie donc, et qui luttaient contre les dérives superstitieuses que prenait le catholicisme de l'époque, et qui favorisaient l'étude des sciences de la nature. L'endroit où l'on a le plus étudié les sciences de la nature dans ces pays, c'était les couvents. Hein? Alors les couvents dans lesquels il y avait non seulement une grande bibliothèque, mais un cabinet d'histoire naturelle, un cabinet de curiosité, comme on disait, donc un cabinet de minéralogie. Bon. C'est dans cette tradition que se replaçait quelqu'un comme Gregor Mendel. Gregor Mendel qui a inventé la génétique, hein, à partir des petites fleurs qu'il faisait pousser dans le jardin du couvent. Bon. Ça, c'est et c'était un bohémien, il était de Brno, enfin de Brunn à l'époque. Hein. Donc, il y a là quand même une tradition sur laquelle je vous recommande d'ailleurs les œuvres d'un Allemand qui travaille maintenant aux États-Unis, qui s'appelle Ulrich Lehner, Lehner, et qui a consacré vraiment sa carrière universitaire à l'étude de cette tendance, maintenant un peu trop oubliée, d'un catholicisme, j'allais dire illuminé, mais enfin illuminé, ça a pris maintenant un sens tout à fait péjoratif. C'est le même Lehner qui a écrit un livre qui s'appelle « God is not nice ». Je crois qu'il n'a pas été traduit en français sous le titre, quelque chose comme « Dieu n'est pas gentil », hein. « Dieu n'est pas un chic type », hein. « C'est pas un mec sympa », c'est mieux que ça, évidemment.
Et donc pour revenir à Benoît XVI,
oui.
Qu'est-ce que vous retiendriez de lui, ses vertus intellectuelles, une caractéristique? Est-ce que vous auriez un ouvrage à recommander à nos auditeurs pour rentrer dans sa pensée?
Pour entrer dans sa pensée. Déjà, ses vertus intellectuelles, je dirais la modération, hein, la prudence, ne pas affirmer comme des choses allant de soi, des doctrines qui sont controversées ou simplement qui ne sont pas de foi. J'ai déjà écrit plusieurs articles sur Benoît XVI et il y en a un où je rappelle ce que m'a raconté un dominicain, que dans leur couvent, ils avaient organisé une exposition de livres, une présentation des ouvrages écrits par les pères du couvent. Et il y en a un qui avait écrit un livre sur le péché de l'ange.
Oui.
Le péché de l'ange, bon. Et un jeune novice, un peu humoriste, avait mis une bande, vous savez, comme on le fait parfois sur les livres, etc. Et là, il y avait écrit dessus « Comme si vous y étiez ». Bon. Alors, le péché de l'ange, ben, ce sont des choses sur lesquelles, ben, déjà, nous n'étions pas encore là. Donc, on n'en a qu'une idée assez vague. Alors, ben, Ratzinger, comme théologien, avait cette grande qualité, justement, de ne pas en dire plus que ce que l'on peut dire, hein, et plus que le contenu du credo, évidemment développé, approfondi, etc. Mais bon, ne pas s'aventurer sur des terrains, sur des sables mouvants. Et de ce point de vue-là, le petit livre qu'il a fait sur les fins dernières, je me souviens plus comment il a été traduit en français, La mort et l'au-delà, quelque chose comme ça, hein, comme titre. Je me souviens, je l'avais lu en allemand, un petit livre vert, alors que là aussi j'ai dû prêter parce que je ne le retrouve pas dans ma bibliothèque. Bon, il doit y avoir quelque part quelqu'un qui se flatte de l'avoir, peut-être même qui croit que c'était à lui. Enfin bon. Et celui-là pourrait peut-être servir d'introduction, à moins que, justement, comme introduction, on prenne celui qui s'appelait en allemand Introduction au christianisme, et qui maintenant donc s'appelle Foi chrétienne hier et aujourd'hui. Alors, l'autre grande vertu, j'en ai déjà parlé, c'est la clarté. C'est pouvoir vraiment expliquer clairement des choses difficiles. Hans Urs von Balthasar, que j'ai connu aussi, était d'une grande profondeur, mais il n'avait pas le don de clarté. Hein. Il faut vraiment s'accrocher, il faut décrypter les allusions, il faut voir que telle phrase est en fait une réminiscence voulue d'un passage de Goethe ou de Hölderlin ou de Thomas Mann, enfin d'un grand écrivain. Bon, il faut deviner. Ratzinger, lui, met vraiment les cartes sur la table. On voit vraiment où l'on en est et ainsi de suite. Sa thèse sur Saint Bonaventure, je n'ai pas lu sa dissertation, parce que vous savez que dans le système allemand, on écrit deux thèses. Une thèse plus brève, qui correspond un petit peu au PhD américain. Enfin, c'est plutôt le PhD qui l'a copié d'ailleurs. Ça s'appelle la dissertation. Rien à voir avec les dissertes qu'on fait au lycée. Hein. Alors là, c'était sur Saint-Augustin, sur l'image de la maison dans la théologie de l'Église chez Augustin. Mais sa grande thèse sur Bonaventure, qui d'ailleurs n'a été publiée qu'en partie, ou n'avait été publiée maintenant, on l'a en entier, mais je n'en ai lu que la version brève, pour laquelle on m'a fait l'honneur de me demander une préface d'ailleurs. Les presses universitaires de France ont réédité ça lorsqu'il a été élu pape. Bon, ça crée un appel d'air, si je puis dire. Donc j'ai fait c'est très intéressant, mais bon, c'est quand même de la hard Wissenschaft, si j'ose mélanger l'anglais et l'allemand. C'est vraiment un travail universitaire, donc je ne le recommanderais pas comme introduction à sa pensée.
C'est pour les plus aguerris.
Oui, c'est ça. Il faut déjà une certaine culture, même une culture certaine, pour aborder ça. Mais les deux livres que j'ai nommés, et puis alors il y a des petites merveilles, ce sont ses conférences. Oui. Alors là, vraiment, là, je suis baba. Donc il peut vraiment dire des choses très profondes, sans avoir l'air de rien, si je puis dire.
Avec des mots simples.
Avec des mots simples, avec des images que tout le monde comprend. Bon. Alors là, j'ai un recueil de ces écrits, je ne sais plus comment ça s'appelle. Si, ça s'appelle The Ecology des Menschen, l'écologie de l'homme. Bon, le titre, bon, vaut ce qu'il vaut. Hein. Il a sans doute été choisi par l'éditeur pour des raisons, disons, publicitaires, pour que ça accroche un petit peu. Bon. Mais alors le contenu est vraiment remarquable. C'est une anthologie de ses
Ces conférences,
interventions, y
oui.
compris alors en France, le discours aux Bernardins, y compris le fameux et si mal compris discours de Ratisbonne et d'autres. Et un qu'il n'a pas pu prononcer à Rome parce que certains universitaires avait fait une bronca demandant que l'on ne permette pas au pape, ce réactionnaire, etc., de prendre la parole. Bon. Oui, ces gens-là ont montré qu'ils savaient utiliser les méthodes fascistes pour défendre leur prétendu antifascisme. Enfin bon, c'est comme ça, donc il n'a pas pu prononcer cette conférence sur la science et la foi. Mais elle est quand même, on l'a quand même, on a quand même le texte, et c'est remarquable.
Très bien, bah merci beaucoup
Ben
pour
je vous
tous
en prie.
ces conseils de lecture et pour votre témoignage. Je donne rendez-vous à nos auditeurs pour un prochain épisode de notre podcast et merci beaucoup, monsieur.
Mais de rien, c'est un plaisir.